Le rapport 2025 sur l'état de santé de la population d'Island Health de Vancouver Island est sorti en novembre. Avec nous, dans le studio pour en parler, Myriane Péloquin-Richard, responsable des politiques publiques de santé à Island Health. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce rapport couvre des données sur une longue période jusqu'en 2021. Il en ressort des avancées notables en matière de santé, mais aussi des défis persistants, notamment du côté des jeunes et plus particulièrement dans le domaine de la santé mentale. Nous allons y revenir avec vous. Mais pour commencer, j'aimerais savoir comment a été réalisé ce rapport qui propose une analyse assez détaillée de la situation sanitaire, mais aussi démographique.
Oui, d'accord. Alors, les médecins hygiénistes ont l'obligation légale de rendre compte de la santé de la population au niveau de la région dont ils seront concernés. Donc, dans le cas de Island Health, ils ont couvert toute la région comme ils pouvaient. Et généralement, il est assez difficile de recueillir de l'information proactive au niveau de la santé. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on on regarde une variété de sources et d'indicateurs qui vont couvrir une certaine portion du temps. Ils peuvent aller jusqu'à 2021, certains vont jusqu'à 2023, même certains jusqu'à 2024, dépendant si les sources sont annuelles ou s'ils sont 2 ans ou 3 ans. Par exemple, le recensement, qui est une source importante d'informations, est seulement fait aux 4 ans. Ensuite, les indicateurs sont recueillis pour essayer de faire le portrait le plus complet possible de la santé de la population, évidemment pas au niveau de l'individu, mais au niveau des communautés. Ce portrait-là est toujours un peu incomplet. Ensuite, on cherche de l'information avec les conversations, avec les communautés. C'est important de noter que ce rapport, c'est un, on appelle ça un snapshot, c'est un moment dans le temps. Donc, qui va couvrir une certaine période de temps, mais qui n'est pas nécessairement ce qui se passe présentement. C'est plus un petit peu un regard en arrière. Et on utilise un rapport descriptif comme celui-ci, pas pour trouver les causes de ce qu'on voit, mais plutôt pour essayer de focusser les conversations puis les dialogues, et puis essayer de décider, bon, si on regarde tous nos indicateurs, où est-ce qu'on veut prioriser les interventions. Donc, dans ce cas-ci, comme vous l'avez dit, beaucoup du rapport était à propos de la santé des jeunes.
Alors, à noter que ce rapport, il examine les disparités et les facteurs influençant la santé, mais y compris les déterminants sociaux et environnementaux, hein, c'est bien ça?
Exactement, oui.
Alors, est-ce qu'on peut donner quelques données démographiques sur l'île pour avoir une idée de la composition de la population de l'île, la population générale, la population autochtone, espérance de vie, mortalité infantile?
Oui, tout à fait. Alors, présentement, on a environ 900 000 habitants. Par contre, on prévoit que d'ici, dans à peu près 20 ans, on va avoir une augmentation d'environ 14 % jusqu'à 1 million ou un peu plus d'un million d'habitants. C'est une population, comme le reste du pays, qui est vieillissante. Donc, les augmentations de population ne sont pas les mêmes dans toutes les tranches d'âge. On augmente beaucoup, beaucoup plus rapidement dans celle des 85 ans et plus, donc les personnes très âgées. Et on diminue au niveau de la population des enfants et des jeunes. Au niveau plutôt de peut-être qui caractérise un petit peu moins la population, mais qui décrit un indicateur général de santé de la population, au niveau de notre espérance de vie, elle a diminué dans la région dans les derniers environ 4 à 5 ans. Pas excessivement, mais tout de même, elle a passé de 81,7 ans à 81,3 années, ce qui n'est jamais quelque chose qu'on veut avoir.
Oui.
C'est la même chose qui s'est passée au niveau provincial, donc on suit un petit peu la tendance. Et au cours des 5 dernières années, ce qu'on sait, c'est que la toxicité des drogues illicites a vraiment contribué à la diminution de l'espérance de vie. Donc, c'est un des facteurs, certainement pas le seul facteur. Finalement, au niveau des caractéristiques de la population un peu plus détaillées, on a environ 7,8 % de la population qui s'identifie comme étant faisant partie des nations autochtones. Et on a une personne sur 5 qui vit en milieu rural, donc quand même un assez haut taux de ruralité. Et on a environ 16 % des gens qui s'identifient comme de nouveaux arrivants ou de nouveaux Canadiens.
D'accord. Alors, on va regarder de plus près avec vous, parce qu'il y a quand même des avancées en matière de santé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, je vous laisse la parole, bien sûr, là-dessus.
D'accord. Alors, je vais vous parler un peu de la santé des jeunes, qui était vraiment une partie importante du rapport. Alors, quand on regarde la santé des jeunes, on regarde plusieurs niveaux d'indicateurs. Un des niveaux, c'est les déterminants de la santé, comme vous avez parlé. Ça, c'est les conditions générales de vie dans lesquelles les gens évoluent, qui ont souvent un très gros impact sur leur état de santé en général. On regarde aussi ce qu'on appelle les facteurs de protection. Donc, les facteurs qu'on sait qui ont de grandes chances de supporter la santé, l'état de santé physique ou mentale des jeunes. On regarde les facteurs de risque et on regarde aussi des indicateurs de résultats de la santé. Donc, par exemple, les taux d'anxiété ou les choses comme ça. Alors, j'imagine que la plupart des gens sont au courant, mais vraiment au niveau de la pandémie, les mesures sanitaires qui ont été mises en place ont eu un gros effet sur la santé mentale des jeunes, un effet très négatif. Et on a commencé à remarquer que nos indicateurs étaient en baisse environ dans la première année et demie de la pandémie.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'on a décidé de regarder ça avec plus d'attention pour ce rapport-ci. Alors, ce qui s'améliore, donc, dans les derniers, ça dépend, là, ça a à peu près 5 ans, je dirais, c'est les taux de pauvreté. Alors, on a vraiment une réduction de la pauvreté infantile. Depuis 2016, on a réduit d'environ 40 %.
Ah oui, quand même.
C'est quand même une bonne réduction. Et on a aussi environ un enfant sur 10 maintenant qui vit dans un ménage qui est à faible revenu ou considéré comme à faible revenu. Et c'était 1 sur 5 en 2016. Donc, c'est quand même une belle amélioration à ce niveau-là. Au niveau des facteurs de protection de la santé mentale, on a beaucoup d'indicateurs qui sont en rétablissement depuis la pandémie. Donc, on a beaucoup de jeunes qui se déclarent eux-mêmes ayant une bonne ou une excellente santé mentale. On a une augmentation de la participation à des activités parascolaires, ce qui est vraiment important pour les relations sociales positives. On a remarqué aussi une baisse des taux d'utilisation de drogue ou de substances, incluant l'alcool. Et on remarque aussi que les jeunes se sentent plus connectés à un adulte bienveillant. Ça, c'est tous des facteurs qui se sont améliorés depuis le milieu de la pandémie jusqu'à maintenant. Et bien qu'ils sont encourageants, ils ne sont pas encore revenus au niveau où ils étaient pré-pandémie.
Ah oui, d'accord. Donc avant 2021, finalement.
Voilà. On a vu une baisse de ces indicateurs-là, puis là, maintenant, on voit qu'ils sont en train de remonter, ce qui est positif et encourageant.
Et puis, j'avais vu aussi une baisse des taux de toxicomanie et d'automutilation aussi chez les jeunes.
Exactement.
Donc voilà, donc quand même des bonnes nouvelles. Enfin, disons que la tendance, vous le dites, est plutôt bonne. Cependant, il y a quand même, parmi les faits saillants, certains qui restent préoccupants. Hein.
Absolument.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus?
Oui. Alors, un des faits saillants qui nous préoccupe, c'est la baisse du sentiment de connexion communautaire. Donc, c'est moins la connexion à l'école, mais plutôt à la connexion de la communauté en général. On sait qu'un fort sentiment d'appartenance à une communauté favorise les relations enrichissantes avec les amis, la famille et promouvoit aussi un meilleur épanouissement scolaire et des meilleures indicateurs de santé mentale. Donc, on a remarqué qu'il y a quand même eu une baisse depuis 2018 et c'est certainement un des endroits où on essaie de travailler au niveau de la santé publique pour augmenter les opportunités de connexion. On a un programme de promotion de la santé dans les écoles qui travaille beaucoup à promouvoir les opportunités de connexion. Ensuite, un autre indicateur qui nous préoccupe, c'est au niveau de la discrimination. Alors, on a une augmentation quand même assez forte chez les jeunes entre 2018 et 2023, de 10 à 16 % de jeunes qui disent être victimes de discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Ça, c'est à l'échelle de l'île. Et aucune amélioration au niveau des jeunes qui disent être victimes de discrimination fondée sur l'apparence physique. Et ça affecte quand même beaucoup de jeunes, 1 sur 4.
Oui, effectivement.
Et au niveau de la discrimination fondée sur le poids, aussi aucune amélioration. Et c'est 1 sur 5. Donc, c'est beaucoup. Définitivement, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, au niveau des écoles, au niveau des informations qui sont véhiculées, au niveau des médias sociaux. et puis travailler avec les jeunes pour qu'ils se sentent, qu'ils peuvent communiquer avec les adultes quand ils se sentent en situation de discrimination. Une dernière chose que je peux mentionner aussi, c'est qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes et je pense que les jeunes se sentent plus à l'aise d'en parler maintenant. Mais au niveau de l'accès aux soins de santé mentale, c'est encore assez difficile. Un jeune sur cinq estime en avoir besoin, mais ne pas avoir accès. Donc, c'est certainement quelque chose qu'au niveau de, peut-être un peu moins de la santé publique, mais définitivement au niveau des collègues à travers la province, on travaille beaucoup pour augmenter l'accès.
Oui, puis alors, il y a effectivement tout ce qui est les soins pour la santé mentale, et puis ne serait-ce que aussi l'accès aux soins pour un médecin de famille, ça reste très compliqué, on l'a souvent dit sur les ondes de Radio Victoria, et globalement sur l'île, c'est encore plus compliqué peut-être du fait de l'insularité. Mm-hmm. Et puis, il y a un autre point aussi, peut-être que j'aurais voulu aborder, parce qu'on en a également parlé ici sur nos ondes, c'est l'insécurité alimentaire. Mm-hmm. Il y a quand même une personne sur cinq qui se dit concernée ici sur l'île, qui se dit en situation d'insécurité alimentaire.
Oui, absolument. C'est certainement un problème, pas juste chez les jeunes, chez les résidents en général, une personne sur cinq. Mais chez les jeunes spécifiquement, on sait que ça a des gros impacts sur la santé mentale, sur les performances scolaires, en fait, sur un peu tout. On a un jeune sur dix qui dit... ne pas avoir assez à manger chaque jour. Donc, c'est vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'avancées à ce niveau-là, au niveau des investissements fédéraux et provinciaux. On a le Scoot Food Program, okay. Qui existe maintenant à travers la province de la Colombie-Britannique, qui essaie vraiment d'amener les repas nutritifs dans les écoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Mais quand même, c'est un gros problème. On dit maintenant que pour une famille de 4 personnes, un panier nutritif mensuel est d'au moins 1 300 $. Donc c'est énorme,
c'est
vraiment.
C'est beaucoup, oui.
Oui, c'est vraiment beaucoup. Donc même si les taux de pauvreté diminuent, il y a quand même les taux de... les coûts de la vie.
Oui, vraiment. C'est ça. Oui. Ouais. Donc, merci. Alors, on peut retrouver ce rapport, il est en anglais, hein, mais on peut le retrouver sur Internet, oui. Sur le site de Highland Hill. Voilà, donc c'est le rapport 2025, mais vous l'avez dit, il couvre une période antérieure, finalement.
Exactement, oui.
Alors, merci. Je rappelle que vous êtes Myriane Péloquin-Richard, responsable des politiques publiques de santé à Highland Hill. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
J'aimerais reconnaître l'appui financier du gouvernement du Canada et du programme d'initiative de journalistes locales distribué par le consortium des médias communautaires dans la production du contenu journalistique produit lors de cette émission.